En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment là, d'être une meilleure mère, cette épreuve-là, et en plus de faire converger mon mode de vie. Et aujourd'hui, si je peux réussir à aider d'autres familles, à accompagner d'autres couples, à redonner, tu sais, c'est ça, j'ai vraiment ce sentiment-là de maintenant pouvoir contribuer dans le partage. Et hein, c'est ça, de parler, de dire que ça a été difficile, mais que maintenant ça va mieux, ça va bien. Qu'il y a moyen de rebondir, puis que ces petits-enfants-là, ils nous accompagnent, puis ils nous donnent un plus dans notre vie. Moi, là, j'en parle, tu sais, ça fait 15 ans, là. Donc, c'est pour ça que je peux en parler aussi, avec autant d'aisance aussi. Mais moi, je suis convaincue que cet enfant-là, elle a joué un rôle énorme, là. Puis c'est peut-être juste ça, son message, son rôle, qu'elle venait nous apporter ça. Mais moi, j'ai voulu en faire quelque chose de positif, puis c'est encore dans mes fondements aujourd'hui.
Bienvenue au 13e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Josée Bourgoin, mon invitée d'aujourd'hui, est une artiste qui travaille le bois pour créer des objets funéraires et accompagner les familles endeuillées. Ce n'était pas la trajectoire à laquelle elle s'attendait après ses études en administration et ses années à voyager sur le pouce. Dans la trentaine, elle a vécu le deuil d'un bébé qu'elle avait tant désiré, puis son père est décédé alors qu'ils se préparaient à lancer ensemble une entreprise. Ces épreuves et celles qui ont suivi l'ont amenée à développer une démarche introspective et artistique qu'elle ne se soupçonnait pas. Dans cette entrevue, on parle aussi de son enfance en liberté dans les champs, puis de ses années au pensionnat, d'un divorce difficile et des défis de santé mentale qui ont suivi. On parle de l'autonomie, des enfants qui grandissent, de l'importance de se développer un coussin financier pour vivre paisiblement et de son bonheur d'habiter au bord du fleuve. Merci de partager ce moment avec nous. Je suis aujourd'hui avec Josée Bourgoin. Bonjour Josée.
Bonjour.
Quel âge as-tu Josée? Il faut que je vérifie ton éligibilité.
J'ai 45 ans. Je viens d'avoir mes 45 ans, sous peu.
En plein milieu de quarantaine, tu es éligible, alors on peut continuer. Pour commencer l'entretien, j'aime souvent demander à mes invités de me parler de leur quotidien pour qu'on puisse comme avoir cette vue d'ensemble de c'est quoi leur vie au jour le jour. Alors, Josée Bourgoin, à quoi ça ressemble ta vie, une journée typique dans ta vie?
Oui, au matin, en tout cas, moi, je savoure d'avoir le luxe de ne pas avoir à utiliser trop de réveil matin. En tout cas, j'ai des grands-enfants qui sont assez autonomes maintenant. J'ai un chien qui est capable de se retenir. Mais c'est ça, ma routine du matin, c'est comme juste me lever, m'assurer que tout le monde démarre sa journée. Mais c'est toujours la première étape, c'est la marche à l'extérieur avec le chien. J'habite sur le bord du fleuve. Et ça, c'est un moment qui m'est précieux et cher de commencer avec cette petite marche contemplative. Et là, je reviens et là, le déjeuner, le café, ça me permet tout de suite de me mettre comme en phase avec la météo, en tout cas, c'est quelque chose, la météo, en plus, c'est quelque chose qui est important, on dirait. Ça arrive souvent, je vais faire mon horaire de la journée en fonction de la météo. Et je me dis, quel luxe! J'ai l'impression que c'est ça mon succès là, dans la vie, c'est que je peux me faire adapter mon horaire à la météo. J'avais une réflexion là-dessus, puis je me dis, ah, il n'y a pas, peut-être pas beaucoup de gens qui ont ce loisir-là, mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. D'avoir, là, je peux avoir mon chien après à l'atelier avec moi. Ma routine est très flexible et très malléable. Je suis quelqu'un qui, la discipline, c'est pas facile. Et que je construis mon horaire au fil de la journée, au fil des événements, en essayant de bien gérer là, ce qui est urgent. Mais disons que c'est la vie à la campagne, pas à prendre l'auto le matin, tout ça, c'est des choses là, qui nourrit ma petite routine matinale et je l'apprécie énormément.
C'est un beau luxe. Alors, qu'est-ce que tu fais s'il fait beau dans ce cas-là?
Mais en fonction des saisons aussi, moi, je fais de la création, je fais de la production en bois. Donc, l'été, c'est sûr que je vais, en fonction de la chaleur, tu sais, je suis sur le bord du fleuve, fait que s'il fait beau, je surveille les heures de marée pour que ma baignade soit bien coordonnée. Je fais du jogging un peu aussi. Fait qu'en fonction de la météo, je vais coordonner un petit peu mes loisirs. Et après... Ça me fait vraiment rire parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Une fois que j'ai placé mes loisirs dans l'horaire, en fonction de la météo, ensuite, je vais aller faire ma grille de travail. Puis là, je parle dans une situation idéale où j'ai pas d'urgence à gérer là, au niveau des commandes à livrer, mais je gère mon temps de travail en fonction les moments plus frais. C'est sûr, l'automne, c'est des beaux moments pour être à l'atelier l'hiver. Mais l'été, là, j'aime ça passer à une autre vitesse. Donc, aussi suivre le cycle. Je me rends compte en vous parlant, je suis aussi le cycle des saisons. Et je pense que ça, ça me rend heureuse.
C'est beau. Moi, j'ai envie de déménager dans la cour. En face du fleuve,
mais
ça.
Mais là, c'est les couleurs d'automne. Là, fait que je suis dans les couleurs d'automne, puis les oies blanches, ils arrivent là, en fin de journée, puis j'essaie d'avoir l'opportunité. Là, tu sais, quand les grands voiliers d'oies, c'est comme un moment magique, un spectacle qu'on ne sait jamais si on va le capter ou pas, mais quand on est là, au bon moment, là, c'est une magie là, que je savoure.
C'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais dans ton atelier?
Je fais de la création, je pourrais dire de l'art funéraire, là, mais c'est beaucoup, j'aime aussi utiliser le mot accompagnement, parce que je fais des urnes personnalisées. Donc, mon père travaillait le bois, j'ai comme fait marché un peu dans ses traces et suivi dans cette lignée-là, mais j'ai vraiment ciblé ce type de création sensible d'un objet, j'imagine on va en parler, mais donc je me définis comme tourneuse sur bois, sculpteur.
Tourneuse sur bois.
Oui, donc l'utilisation d'un tour à bois, la rotation, c'est ce qui permet d'aller creuser les troncs d'arbres. Donc j'ai vraiment une machine et une technique qui me permet d'aller creuser pour faire le contenant. Et après, j'ajoute avec la sculpture des éléments qui permettent de personnaliser l'objet. Mais souvent, je vais me faire aider, je vais faire une co-création avec les familles.
Wow! Oui, on va y revenir.
Parce oui, c'est que ça. Il y a comme une raison pourquoi je suis rendue là.
C'est magnifique. Oui, je trouve ça tellement beau, les urnes, les objets que tu crées. Je trouve ça vraiment, vraiment touchant. Puis je peux imaginer comment ça fait partie du processus de transition. Enfin, on y reviendra dans un moment. Qu'est-ce qui arrive à la fin de tes journées?
La fin de la journée, j'ai besoin de me dépoussiérer. J'ai besoin de retourner au grand air. Donc, c'est souvent là, la fin de journée, je vais faire mon jogging ou un petit tour en vélo. Mais c'est ça, il y a encore la marche du chien qui intervient dans l'histoire, et souper, moment avec les enfants. C'est sûr que le soir, c'est ça, j'ai quand même des... c'est encore les loisirs, là. Je suis inscrite à différentes activités dans ma communauté. Quelques soirs par semaine, là, je vais avoir des petites choses dans l'horaire, mais j'ai une vie très tranquille de soir. Le nightlife à Saint-André de Kamouraska est assez calme. Ça me convient bien d'ailleurs.
C'est limité.
C'est ça. Puis j'accorde aussi du temps en soirée à de la lecture ou de la formation. J'adore passer du temps à... J'ai comme arrêté la télévision. Le soir, je vais faire de la recherche sur des thèmes ou regarder des... Je pense qu'on est nombreux à aimer faire de la formation en ligne ou regarder des capsules. Mais j'ai toujours des petites choses dans la journée. Je me dis, ah, tel mot ou telle chose... Je consacre cette espèce de vide-là à aller chercher comme un besoin d'apprentissage, de connaissances en soirée. Là. C'est mon moment où il y a de l'espace.
Tu mentionnes tes enfants. Quel âge ont-ils maintenant?
de 13 et 14 ans et demi.
Wow!
Ils sont sortis du bois, là, comme on dit, là. Ben, il y en a qui me disent que c'est le pire, là, parce que c'est secondaire 2 et 3. Mais, en tout cas, si c'est ça le pire, ça devrait bien aller.
À date, c'est pas si pire.
Ils sont vraiment souriants, ils sont contents d'aller à l'école. C'est ça, moi, je les... Parce que je sais pas si je devrais dire je les encadre pas trop, mais c'est, ils sont vraiment assez autonomes dans leur petite routine. Là, ça, moi, ça a été comme quelque chose que j'avais hâte là, au secondaire, ou même quand ils étaient petits. Là. C'est ça, je le laisse bien gérer ce qu'ils sont capables de gérer pour moi avoir plus de temps. Définitivement, je me surimplique pas. Je me reconnaîtrais pas dans le parent qui se surimplique. Mais j'ai des beaux grands ados qui comprennent que je les aime, je les abandonne pas, mais s'ils manquent l'autobus, je regarde.
C'est leur problème.
Moi, je suis pas leur, là. Tu sais, le matin, je vous l'ai dit, là, moi, je suis dans ma routine de chien. Fait que si c'est pas moi qui va le dire, hey, oublie pas. Non, ça, ils savent maintenant que.
Ils sont autonomes. Pour le meilleur et pour le pire, moi, parce que c'est ça, j'écoutais le récit de ta soirée, tu sais. Puis moi, j'ai deux enfants, mais ils ont 7 et 10 ans présentement. Mmh. Alors, je suis pas encore au stade là où je peux faire mes propres affaires le soir.
Oui, bien, on en parle.
Ma mère est encore trop importante.
C'est ça, hein. Je le savais. En tout cas, j'ai trouvé aussi la trentaine, là. Les enfants, c'est du don de soi beaucoup. Ça demande de la présence. Et les deux étaient, on les a eu proches, là. Il y avait 18 mois d'écart. Ouf, que j'ai trouvé, tu sais, que ce temps-là, pour moi, là, il était. C'est ça. On met en priorité, tu sais, la vie, les petits, là. Tu sais, c'était ça. Il y avait comme pas de. Il n'y avait pas de choix à faire, c'était les bains, tu sais. Mais là, une fois que ça va prendre, tu sais, leur douche, le bain tout seul, le routine de dodo, waouh, moi, ça m'a... Puis le secondaire, ils reviennent, tu sais, à 4h30, ils dînent à l'école. Bon, hey, Puis je les prépare tout de suite, là. J'ai dit, là, au cégep, là, vous habiterez plus ici, là. Puis là, on en rit, là. Ils savent que je les abandonnerai pas, mais moi, j'ai d'autres projets. Parce que on verra ce que ça va donner.
C'est beau grandir.
Oui, chaque étape, c'est ça. Moi, j'ai vraiment profité de chaque étape, mais je ne retournerai pas en arrière. J'aime beaucoup que chacun soit autonome et qu'à chaque âge, ils soient le plus possible autonomes dans leurs choses.
Il y a des gens dans la quarantaine qui ont des jeunes enfants, mais je dois dire que moi non plus, je ne retournerai pas là, en tout cas.
Oui, les couches, puis les barrières, puis les... tout ça, là, c'est des étapes.
Oui, c'est les sièges d'auto, ça, c'est le pire. Alors, mais on va quand même reculer en arrière, mais beaucoup plus loin.
Oui.
J'aimerais, avant qu'on bondisse dans le présent, qu'on parle un peu de tes origines. D'où viens-tu? Comment vois-tu les racines qui te tiennent debout aujourd'hui?
Oui. Moi, je suis native de Pouinegamouk. Donc, c'est un petit village avec un lac dans les terres, dans le Témiscouata. Donc, c'est à peu près à 45 minutes là, de Rivière-du-Loup, mais dans les terres. Et j'ai grandi sur une ferme, mais mon père était éleveur de chevaux canadiens. Il travaillait le bois, il y avait l'ébénisterie, il y avait la ferme. Et on était dans cette espèce de mode de vie très, très libre. En même temps, on avait beaucoup de contraintes parce qu'il fallait s'occuper des animaux, il y avait toujours quelque chose à faire. Là. Tu sais, les animaux, c'est trois fois par jour. Mais en même temps, il y avait cette liberté-là dans le jeu. C'est comme si mes parents, moi, je l'ai déjà nommé ça... J'ai l'impression que mes parents, ils connaissaient pas la peur. Ils nous laissaient partir. On avait des poneys, mon frère puis moi. Puis on partait en poney au grand galop. Pas de casque, tu sais, des bombes, là, des chapeaux d'équitation. Puis des fois, on mettait même pas la selle, là. On n'avait pas le temps. On partait pas de selle, pas de casque. Mais on allait se promener. Puis, je sais pas, tu sais, il y avait pas de cellulaire. Il y avait pas. Mais on était à deux. Puis là, des fois, ben, on venait. Tu sais, il y en a un qui avait ton... Mais en tout cas, il nous laissait mon frère, il grimpait dans les arbres. Tu sais, c'est ça mon enfance. C'est pas des parents nonchalants parce que mon père, il embarquait dans nos projets. Ma mère était animatrice plein air. Elle nous construisait des jeux, des parcours de bertisme dans, tu sais. Mais c'était comme, ben, c'est parce que je vois la différence avec les enfants aujourd'hui. Tu sais, je travaille un peu dans les écoles, puis je vois comment, il faut faire attention, là. Il faut pas qu'il arrive rien, puis. Quand je regarde l'enfance que j'ai eue, je me dis, c'est presque un miracle qu'on soit en vie. Mais, tu sais, en même temps, on apprenait à faire attention, puis on pratiquait, on développait des réflexes ou des... en tout cas,
Des habiletés,
des habiletés,
quelque chose, ouais.
À force de... En tout cas, peut-être si t'as pas l'adulte qui est toujours là à dire de pas le faire, ben tu le fais, mais dans la mesure de ce que tu es capable, tu développes la confiance, puis l'évaluation, tu sais, le doute raisonnable, à force. Mais c'est ça. Puis on était dans un... Tu sais, on habitait dans le fond d'un rang, tu sais, le danger était peut-être pas... je sais pas, c'est peut-être pas comme à faire du vélo dans le trafic en ville, tu sais, c'est
ouais.
Ça. Fait que y a peut-être des niveaux, mais c'est vraiment, c'est ça. J'avais des parents là qui avaient cette espèce d'éducation là, c'est Montessori là, mais apprendre par le jeu, apprendre par l'expérience.
Tes parents, ils devaient aussi avoir autre chose à faire. S'il y avait des animaux, si ta mère avait un travail à l'extérieur de la maison, ils devaient aussi être occupés. Fait que c'était.
Oui,
c'était pas dans le temps où il y avait des camps de jour, nécessairement, en tout cas pas à Pointe-Nigamouk.
Non, mais moi, toutes mes amies, là, c'était les animaux. Là, petites, là. J'avais des bébés chiens ou des bébés chèvres. J'avais une poussette où mon père, il faisait comme un chariot. Tu sais, si j'avais un besoin, là. Là, mon père, il fabriquait là, l'objet en question. Ça faisait partie de ses loisirs, de ses... Tu sais, mon père, il travaillait tout le temps. Des vacances, il prenait pas ça. Mais là, des fois, là, tu sais, il embarquait dans nos projets, mon frère. Puis moi, là, il fallait faire un cerf-volant. Ah, là, il regardait là, qu'est-ce qu'il pouvait prendre, des vieux matériaux recyclés. Puis là, il nous fabriquait un cerf-volant parce que là, on avait envie d'un cerf-volant. Puis quand j'y repense, il y avait vraiment du plaisir là, à faire ça avec nous. Mais sinon, tu sais, le reste du temps... Moi, j'avais des animaux, là. Fait que je jouais, là. Tu sais, j'ai développé comme un langage, tu sais, le non-verbal. Tu sais, je me rends compte aujourd'hui, j'ai une bonne compréhension du non-verbal, même des humains, mais je me dis, je pense, c'est parce que, en plus, ta sécurité, là, on avait des chevaux, là. Tu sais, quand tu rentres dans une écurie avec des chevaux, il faut que tu sois capable de lire le danger, là. T'es petit. Ouais. Moi, je me souviens, là, je revenais de la maternelle, là, puis je m'en allais dans le champ, puis je grimpais j'en avais une vieille jument, là, je grimpais sur son dos, là. Puis c'est même arrivé une fois, ma mère, elle me cherchait, mais je m'étais endormie sur le dos de la jument. Puis là, ma mère la raconte encore, cette histoire-là, parce que ça, c'était comme, elle s'était pas rendue compte que j'étais revenue de l'école. Mais, tu sais, c'est ça, il était pas inquiet.
T'avais une bonne gardienne.
Il était pas inquiet, c'est ça. Ils m'ont été. En tout cas, ils m'ont appelé, je me suis réveillée, puis j'étais correcte, là.
Quelle enfance! Je vois bien la liberté, je te vois courir dans les champs. Qu'est-ce qui t'arrive après? Comment ça arrive l'adolescence quand on...
Mais moi, j'avais un frère plus vieux, puis je me tenais beaucoup, là, les amis autour de la maison, là, c'était beaucoup des... Ben, c'était tous des garçons. C'était toute une gang de gars. Fait que moi, j'évoluais, là, on faisait du BMX, puis de la planche à roulettes, puis on faisait des jumps, là, tu sais, c'était très sportif. Puis là, je jouais au baseball. À Pointe-Nigamouk, là, il n'y avait pas d'équipe de filles, là. Fait que si tu voulais jouer au baseball, tu jouais au baseball avec les autres, puis là, c'est ça. Fait que quand je suis arrivée, déjà au primaire, c'est ça, j'étais bonne dans les sports, j'étais la plus vieille un peu de la classe, j'avais facile à l'école. Je suis arrivée au secondaire, j'avais encore facile à l'école, mais au niveau des sports, là, j'ai commencé à être dans des équipes de filles. Et là, j'étais super bonne. Tu sais, en tout cas, ça allait bien. Fait que j'avais beaucoup de succès. On dirait mon secondaire, tu sais, c'est ça, je gagnais des trophées, j'étais représentante de niveau, personnalité de l'année, personnalité sportive. C'est cette construction-là où, tu sais, à la fin de l'année, là, mon père, il faisait des tablettes, puis là, je remettais mes trophées, puis mes médailles. J'avais, tu sais, au niveau de l'athlétisme, tout ça, j'avais un côté compétitif, là. J'aimais ça, là, ramener des... Mais ça allait bien, là. J'étais pensionnaire, faut dire aussi. J'ai été 5 ans pensionnaire. Et là, tu sais, dans le parascolaire, je pouvais vraiment m'épanouir. J'étais tout le temps avec les amis. J'étais hyper occupée, faisant un petit peu d'activités plus culturelles, mais c'est ça, c'était beaucoup les sports là, qui étaient... J'étais quelqu'un d'équipe, j'aimais beaucoup les trucs d'équipe, puis après ça, ça m'a amené aussi à garder le dortoir, au Collège Saint-Anne où je suis allée, j'étais gardienne de dortoir, fait que tout le côté humain, là, c'était bien important pour moi.
Le leadership de la communauté aussi, d'une certaine façon, non?
Oui, ben qu'est-ce tu sais dans les sports d'équipe, il y a une notion de dépassement individuel, mais ça peut pas se faire sans les autres. Puis c'est une réflexion que je me suis faite, tu sais, entre quelqu'un qui performe dans des sports individuels versus des sports d'équipe. C'est ça, il y a je pense qu'il y a des traits de personnalité qui doivent ressortir à quelque part ou qui doivent. Mais moi, c'est ça, j'ai pas beaucoup de motivation à m'entraîner seule. Mais si je sais que je vais m'entraîner avec d'autres, là, je vais pas manquer un entraînement parce que j'aime être avec les autres. C'est ça, j'ai découvert ça sur moi, là, tu sais, c'est que ma discipline, mon problème de discipline, tu sais, quand je le joins avec du social, ah là, ça va bien. Ça va super bien. Oui.
Parle-moi un peu de l'expérience du pensionnat. Est-ce que c'était typique pour les enfants de ton village d'aller faire leur secondaire dans un pensionnat à l'extérieur?
Bonne question. C'est vrai que non, mais en fait, mon père avait été pensionnaire au Collège Saint-Anne. Et c'est ça, à Poinégamo, qu'il y avait une petite école secondaire. Mais c'est sûr que l'offre au niveau de l'enseignement puis du parascolaire était limitée. Puis, je sais pas, c'est mon frère qui est allé en premier, mais moi, j'ai suivi là dans l'histoire. Mais il y avait une bibliothèque magnifique. Fait qu'ils l'ont amené faire les journées portes ouvertes. Ils ont montré ça. Puis, ça impliquait qu'on était 5 jours là-bas. On revenait les fins de semaine. Il y avait un transport d'organisé. Et c'est ça, mes parents, ils ont encouragé ça, mais tu sais, mon frère, quand il est tombé à la bibliothèque là-bas, ça a l'air que là, il voulait plus partir de là. Puis moi, après, ben c'est ça, j'ai suivi. Mais tu sais, quelques années après, ils ont fermé le pensionnat, puis ça a été vraiment comme un deuil pour moi parce que ça a été une des expériences où j'ai l'impression que ça m'a vraiment construit au niveau du vivre ensemble. Puis en même temps, dans mes réflexions, autant j'étais très, très libre sur la ferme quand j'étais petite. Là, j'arrive là, puis il y a des heures pour tout. Tu sais, il y a une heure pour la douche, il y a une heure pour les études, il y a une heure pour les... Tout, il y a une grille horaire, puis on est obligé de prendre des activités sportives, 2 activités culturelles. Tout était encadré. Et là, moi, je surfais là-dedans, là. Je pouvais pas fonctionner mieux que ça avec un cadre. Puis ça m'a étonnée, mais... La contrainte n'a jamais été un problème pour moi. Tu sais, on l'avait avec les animaux, mais je trouve que le plus dur pour moi, là, c'est justement d'en mettre une horaire. Mais quand il y en a une, on dirait que une horaire avec des amis, là, ça allait super bien. Fait que je suis passée d'un extrême à l'autre. Puis là, je me dis, ben peut-être que je vais finir mes jours dans une maison de retraite ou dans un genre de monastère avec des heures. Tu sais, des levées à 5h30. je me suis déjà inscrite à une retraite là, de yoga, puis t'es levée à 5h30, tu sais, je me suis dit, je vais essayer, tu sais, c'est comme... Puis, ben, pour 2 jours, c'était drôle, là. Mais je me dis, peut-être...
pour un mois, mais...
Peut-être que ça me convient bien aussi, tu sais, un extrême de discipline, puisque la contrainte n'est pas nécessairement une source d'inconfort pour moi. Je réussis à y trouver du positif dans la contrainte.
Qu'est-ce que tu as fait après le pensionnat, après l'école secondaire? Qu'est-ce qui t'arrive?
Là, j'ai fait... Là, vous allez rire, là. Mais à l'école secondaire, ils ont fait venir une activité spéciale, ils ont fait venir une madame qui lisait dans les lignes de la main. Puis okay. Là, elle a vu, j'avais une ligne pour l'administration. Une ligne d'argent, je sais pas trop. Puis là, l'administration, ça m'a comme... Fait que... Puis je voulais rester à l'Apocatière, là. Cette école-là est à l'Apocatière. Donc je voulais rester là pour avoir mon travail comme gardienne de dortoir. Fait que je m'inscris en administration au cégep. Là, que je finis là, de peine et de misère, hein, parce que, tu sais, on s'entend là, que là, ça, c'est très cartésien. Il n'y a pas beaucoup de social là-dedans. Y a pas... En tout cas, même les profs, ils me demandaient, tu sais, t'es-tu sûr que t'es à la bonne place, tu sais? Mais je me disais, l'administration, il y en a dans tout. Tu sais, c'est quelque chose que, dans tous les projets, dans toutes les sphères, si j'ai envie de même m'en aller en tourisme ou en, tu sais, n'importe quelle entreprise, le milieu de l'entrepreneuriat, ça m'attirait. J'ai dit, tu sais, l'administration, ça en prend dans tous les domaines. Que je me suis dit, bon, ben, ça va être fait, là, apprendre les chiffres, là. Ça va être coché. Puis, tu vois que c'était un peu ce qui manquait à mon père dans ses projets, d'être capable de se gérer. Là. Tu sais, on n'était pas riches. Puis, je me disais, si on connaissait la business, on serait peut-être en meilleure position. Fait que moi, je pourrais aller apprendre les chiffres, puis on pourrait faire des projets plus rentables dans la famille. Fait qu'il y avait cette dimension-là. Mais ça a été vraiment difficile là, de terminer là, ce cours-là. Là. J'ai vraiment. Puis j'ai frappé un petit mur là, à un moment donné où, tu sais, dans ma vie où tout allait bien et je performais, là j'ai eu comme un premier stress là, d'échec. Mais j'ai réussi à finir. Et après ça, j'ai voyagé pour me remettre de cette expérience-là d'administration. Puis et même pendant l'été, là, je voyageais aussi. Là, l'école, c'était comme un mal nécessaire. Là. J'essayais de trouver du plaisir à l'extérieur. Puis on se faisait, j'ai une amie, je l'ai encore, mais on se faisait des virées en autostop. On a fait le tour de la Gaspésie avec 5$ une fin de semaine. Il fallait qu'on parte le vendredi soir, on couche à Matane. Puis là, il nous restait comme, fallait qu'on revienne le dimanche soir pour être à l'école le lendemain. On se faisait des défis de même pour trouver l'école intéressante. Puis après, ça nous est resté. En tout cas, j'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Je faisais un peu d'argent. Après, j'ai fait des circuits. Je suis allée un peu au Mexique. Et après, l'Europe. J'ai fait les vendanges. Des circuits de voyage là, pendant 5 ans, là, de 17 à 22, 23 ans. Là, j'étais vraiment sac à dos. Mm-hmm. Et vacant. Ben, c'est des. Je travaillais, j'étais dans des familles, je me posais, je travaillais, je repartais jusqu'à temps que je rencontre mon conjoint, le père de mes enfants qui est belge. Puis on a habité 2 ans à Bruxelles, j'ai travaillé pour eux. Mon cours en administration a refait surface. Et
a payé finalement.
Oui, c'est ça, j'étais à l'administration pour un projet de Médecins sans frontières, puis c'est un peu mon rêve là, tu sais, comme voyageuse, je sais pas, Médecins sans frontières, c'est comme un... En tout cas, je me suis vraiment poussée là pour réussir tous les tests, puis réussir à rentrer, à aller chercher mon permis de travail, tout ça a été une belle expérience, mais c'est ça, à un moment donné, avec l'envie d'avoir des enfants, on s'est dit c'est plus facile au Québec qu'à Bruxelles. Les conditions pour acheter une maison, c'était pour moi... Puis vivre en ville, je le faisais parce que c'était temporaire, mais c'est ça, j'étais loin là, de ce qui me nourrit. Là. Ça a été une bonne expérience, mais... Puis en même temps, mon père, il a eu un diagnostic de cancer. Fait que, mais tu sais, même quand on a eu le diagnostic, on avait déjà pris la décision qu'on revenait au Québec s'installer. Puis juste le transfert d'argent en euros versus dollars canadiens. Moi, mon cours en administration, ça faisait ching, 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 ching. Puis là, ben, on a pu s'acheter une maison pas trop chère à Saint-André-de-Kamouraska. Et ça nous a permis, déjà à la base, là, dans la trentaine, on pouvait réussir à payer toutes nos choses avec juste un salaire. Parce qu'on avait payé une maison pas chère, pratiquement cash. Donc, on est parti dans notre dynamique familiale avec ce luxe-là de vivre avec juste un salaire.
C'est un gros avantage, c'est sûr.
Oui, ça ne nous a pas si bien desservi parce que là, le père des enfants, il fluctuait dans ses emplois beaucoup. ce qui nous a mené à une séparation, d'ailleurs. Mais c'est ça. Tu sais, les contraintes, des fois, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se lève le matin et vont travailler parce qu'ils ont des billes à payer, ils ont des factures.
Ils ont des grosses dettes.
Oui. Fait que je me dis, c'est ça, la contrainte, des fois, ça peut aider à se motiver à travailler. En tout cas, bref. Mais ça fait partie, en tout cas, je pense, des points tournants ou, en tout cas, des éléments importants dans ma vie. Tu sais, la gestion de l'argent. Tu sais, comment la précarité nous amène à faire des choix qui sont des choix de survie. Puis déjà de partir comme ça, tu en avais mis un peu de côté en Belgique, on a transféré ça en dollars canadiens, de faire quelques bons choix à ce moment-là. Puis encore aujourd'hui, là, comme travailleur autonome, une des choses que je trouve qui me permet là, de rire là, de mon horaire, c'est que j'ai un coussin financier. Tu sais, parce que si je n'étais pas sûre à la fin du... Tu sais, quand je vais à l'épicerie ou... Tu sais, moi, je suis pas capable là, d'être juste dans le fond de mon compte. Là. Tu sais, ça me prend un bon coussin financier que je sais si je me blesse, j'ai de l'argent pour quelques mois. Mais le fait de... Tu sais, on nous apprend pas beaucoup ça à l'école. Je sais pas, j'ai comme réalisé, moi, là, à un moment donné, c'est que, comme travailleur autonome, de toute façon, je voulais pas vivre de précarité, donc il fallait... Tu sais, les gens, on sait pas trop quand est-ce qu'ils nous payent ou tout ça. Fait que de garder un montant d'argent qui nous rassure, qui nous sécurise. Puis moi, ça m'a permis après de faire des choix professionnels, des choix personnels qui me desservaient. Tu sais, en tout cas, je le lance comme ça, là, comme ça vient, mais c'est, je ne sais pas si ça sort comme un conseil, là, mais c'est pas, moi, ça a été vraiment... c'est comme si notre besoin de base, c'est l'alimentaire, c'est le... Tu sais,
la sécurité.
Puis si on n'a pas l'argent, on a une alarme dans la tête qui sonne, qui dit il faut que, il y a un stress qui est là, qui nous empêche de dormir ou que. Hey, quand t'as de l'argent dans ton compte, là, tu sais, tu peux affermer la switch, la tête, là. Dis, c'est correct, là, je n'ai pas.
Relaxer un peu.
Mon épicerie, là, je pense plus à ça, moi, dans la vie, là. Tu sais, oui, je vois que les prix montent, mais, tu sais, ça me. Fait que c'est une chance, ça s'est placé comme ça, mais c'est des choix, je pense que. En tout cas, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est bien important. De grâce à la liseuse de main, peut-être, qui est venue à l'école.
C'est donc bien drôle, ça, que l'école... En plus, le Collège Sainte-Anne, c'était une institution religieuse?
C'était beaucoup des professeurs. Il y avait encore quelques profs prêtres, mais c'était beaucoup laïcs. Ben, en tout cas, oui, c'est... Ouais. C'est religieux. Il y avait une chapelle, il y avait des cérémonies à Pâques. Puis, tu sais, c'était une activité comme d'Halloween ou je sais pas trop. Là. Il y avait eu un magicien, puis il y avait eu quelqu'un qui lisait les lignes de la main. Tu sais, c'est les écritures aussi. C'est comme une espèce d'activité à thème. Puis, je sais pas. Hein. C'est drôle comment qu'il y a des événements qui nous. Peut-être que.
Des petites choses qui guident, qui ont une grande. Un impact beaucoup plus lointain qu'on aurait peut-être pensé à l'origine, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Ça a juste comme renforcé. Peut-être que j'avais déjà l'intention d'aller dans ce domaine-là, ou je sais pas, mais là, ça l'a renforcé. Mais en tout cas, je voulais. L'argent, j'ai. En tout cas, même dans mon travail, là, fixer le prix des œuvres. Tu sais, on a un rapport comme travailleur autonome à l'argent. Puis à un moment donné, j'ai comme refait un ménage. Tu sais, par rapport à ça, parce que c'est dur de mettre le prix, là. Tu sais, quand t'arrives, tu sais, la famille, tout ça, puis là, quand vient le temps de dire combien ça coûte, tu sais, la plupart des artistes, là, c'est là qu'ils buguent, tu sais, c'est pas facile de parler d'argent. Fait que moi, je garde ma casquette de travailleur autonome, entrepreneur, artisane, tu sais, il faut que je facture, tu sais, il faut que... Mais...
Ben sinon, tu peux pas pratiquer.
C'est ça. Puis moi, j'ai des... Tu sais, là, c'est ça, je suis maman monoparentale, c'est pas mon loisir, là. Fait qu'il faut que je facture, puis il faut que je sois à l'aise de facturer, puis il faut, je gagne ma vie avec ça. On est à peu près à 2% des artistes à vivre de la création. Ben, il faut que je mette les conditions en place pour que je garde mon coussin financier. Mais c'est ça, j'ai fait comme un, tu sais, je me suis dit, dans le fond, l'argent, Tu sais, moi, j'ai fait une association, j'ai pris ça dans une espèce de truc de croissance personnelle, mais tu sais, c'est d'associer l'argent à l'amour. Ça fait ouh, tu sais, ça fait bisounours un peu. Mais tu sais, je me suis dit, OK, c'est tout, tu sais, si on part de la notion que tout est énergie, bon, tu sais, moi, dans mon travail, j'en mets de l'amour. Puis quand les gens me payent, ben, si l'argent est une énergie d'amour, ben, c'est normal que j'en reçoive en retour. Tu sais, ça fait une boucle. Puis là, après ça, pas longtemps après, j'ai eu mon compte de taxes municipales. Mais là, je me suis dit, ben, c'est normal que je paye mes taxes, que je donne de l'amour à ma municipalité, puis qu'eux autres, en échange, ils viennent ramasser mes poubelles. Puis... Fait que, en tout cas, mon rapport à l'argent, puis tu sais, ça change aussi la façon dont on consomme après. Tu sais, si je vais plus acheter local, ben, je donne mon argent, je donne mon amour à un artisan qui produit. Tu sais, mon garagiste, tu sais, ça me fait toujours de la peine quand mon auto, il faut que je la répare, mais ah, ben, tu sais, je donne l'argent à mon garagiste, tu sais. Puis là, ben, en lien avec ça, après ça, je me dis, ben, je veux-tu vraiment donner mon argent à Amazon? Ben là, j'ai comme moins envie de donner d'amour à lui. Fait que ça a été comme
Exactement.
un switch où je me suis dit, ben, OK, peut-être que l'argent, c'est pas si important, tu sais, c'est juste revoir, tu sais, en tout cas, vous comprenez que dans ce que j'essaie de dire, le stress par rapport à l'argent, j'ai essayé de diminuer. T'sais, le côté négatif de l'argent. Puis c'est un des
Oui, parce que
tabous,
ça...
c'est un des gros tabous dans la société. Puis l'autre gros tabou, on va sûrement en parler, mais c'est la mort. Donc, moi,
Ben, parlons-en,
je...
parce que quelque chose qui m'a attiré à communiquer avec toi puis à t'interviewer, c'est que effectivement tu travailles, ton travail existe à cause du deuil. C'est quelque chose qui fait partie beaucoup de ta vie, dont tu es confortable de parler, parce que je dois dire, j'ai fait plusieurs entrevues à date pour cette balado-là, la quarantaine. C'est pas tout le monde qui est prêt à contempler le deuil. Souvent, si ça nous arrive, ben, on n'était pas nécessairement préparé. Donc, je trouvais que c'était une belle opportunité que de pouvoir s'en parler. Alors, veux-tu peut-être commencer en m'expliquant un peu comment c'est arrivé dans ta vie? Ben, c'est pas comme si tu travaillais dans un salon funéraire quand tu étais petite. Donc, comment ça t'est arrivé, et quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui?
Oui, ben c'est ça, c'est une histoire un peu, c'est une histoire de vie. C'est un peu, c'est triste, là, mais mon conjoint et moi, on a perdu notre premier bébé. Donc, il y a eu une grossesse qui s'est mal passée. Puis là, j'ai été amenée à faire une première petite tourne. Tu sais, cet enfant-là, tu sais, nous, c'était notre premier bébé, puis tu sais, on était en mode famille, là, tu sais, il fallait aménager une chambre, il fallait... Mais là, on était rendu à l'étape d'aller à la maison funéraire choisir une urne, là, c'était vraiment sombre, là, c'était vraiment une des grandes tristesses, là, une grande épreuve. Puis c'est à ce moment-là, avec mon père qui était ébéniste, comme j'avais pas du tout envie d'aller à la maison funéraire puis d'aller vers un petit produit, tu sais, j'avais envie de construire autour de cette épreuve-là, de donner de l'amour, tu sais, au petit bébé, même si on l'avait pas connu, tu sais, c'était comme un, c'était précieux, c'était un projet, tu sais, le deuil périnatal, là, pour ça. Puis il y a beaucoup de gens, quand on en parle, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent ça ou qui l'ont vécu, mais tu sais, c'est un vrai deuil d'un enfant qu'on aime. Puis je voulais que ça soit souligné. Puis je voulais que ça reste dans quelque chose de vivant. Tu sais, je voulais. J'avais besoin. Je trouvais ça sombre, là, la mort. J'avais 35 ans. Puis j'étais pas du tout dans une. Tu sais, j'étais en pleine grossesse, là. On était vraiment dans un tout autre état d'esprit. Puis là, on se retrouvait avec une cicatrice énorme à soigner. Puis je voulais qu'on continue d'être dans le. En tout cas, dans la vie. Fait que l'idée de faire un petit objet, de faire quelque chose de beau, là, tu sais, qu'on pourrait avoir dans notre maison, garder auprès de nous. Je voulais pas que ça soit un symbole funéraire. Tu sais, je cherchais vraiment. Fait qu'on dit, on va la faire en bois. Tu sais, mon père, tu sais, on avait toujours fait des projets tu sais, on faisait nos cadeaux, nos choses, on faisait tout nous-mêmes à la main. Fait que j'ai dit, Penses-tu qu'on est capable de faire l'urne? Puis il a dit oui. Puis c'est moi qui l'ai fait. Il m'a coaché un peu. On a fait un premier petit contenant, là, c'est pas. Mais c'est là que j'ai eu un déclic que le travail du bois pouvait porter des émotions. Parce qu'il faut vraiment comprendre que moi, j'ai pas grandi dans le milieu artistique. Là. Mon père, c'est un artisan. C'était les valeurs familiales, là, c'était. C'est vraiment les bonnes vieilles valeurs chrétiennes dont on travaille. Puis, mais il était dissocié de la religion, mais on portait l'idée qu'il fallait faire, il fallait être dans l'action, il fallait. Mais on n'était pas du tout dans nommer les émotions. Puis, ce que l'artiste fait, là, de la recherche, de la création, de l'introspection. Le mot introspection, là, ça n'existe pas dans le dictionnaire bourgoin. Là. On oublie ça, introspection. Ressentir, ça c'est un mot que j'avais vaguement entendu. Je l'ai appris en faisant du yoga, pour mon rétablissement. Là, le yoga, c'est quelque chose de super important. Mais c'est ça, je partais de loin là, au niveau des émotions. Puis à travers le travail du bois, qui était notre réflexe familial quand même, fait qu'on était dans le faire, mais j'ai réussi à aller chercher une connexion avec mon cœur, avec le message que j'avais envie d'exprimer à mon bébé. Puis là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, si on réussit à faire ça, puis mon père, à ce moment-là, il a le cancer. Je suis vraiment dans une drôle de dynamique, là, à 35 ans, là. La vie, la mort, ça se croise. J'ai les deux enfants. J'ai François, après j'ai Clémence. Et mon père décède. Fait que pendant 5 ans, tout ça se mélange. Puis autour de ça, moi, j'ai un projet d'entreprise, j'ai un projet qui a commencé avec mon père, qui était comme tranquillement, ses capacités diminuaient, mais j'avais envie de faire du tournage sur bois avec lui. On a fait des prototypes, on était en train de lancer l'entreprise, mais c'est ça, avec les naissances, le projet d'entreprise me permettait aussi d'étirer mon chômage, maternité. Là, j'allais chercher une subvention pour étirer un peu mon temps, tu sais, d'accompagnement avec les bébés qui étaient allaités. Tout ce démarrage-là, c'était comme la famille, puis la vie, les vraies affaires. Là. J'étais en plein dedans. Là, puis c'était pas facile. Se lancer en entreprise, avoir des jeunes enfants. C'est pour ça que je dis chaque étape, là, je retournerais pas là, mais je savais pas pourquoi. Je sais pas exactement pourquoi je faisais ça à ce moment-là. Je l'avais pas intellectualisé comme je l'en parle maintenant. Je savais juste qu'il fallait que je le fasse. Puis après, on m'a dit que c'est beaucoup comme ça que les arts, c'est beaucoup comme ça que ça. Tu sais, il y a des gens qui sont artistes de naissance, ils naissent dans des familles d'artistes, ils ont ils ont vraiment une culture artistique. Mais il y en a d'autres, ils se tournent vers les arts parce qu'ils en ont besoin. C'est quelque chose, c'est millénaire. Il y a quelque chose dans les arts qui répond à un besoin de guérison. Il y a des fonctions traditionnelles dans l'art. Puis ça a toujours été. Puis il y en a qui se mettent à écrire, il y en a qui se mettent à faire des gâteaux, il y en a qui. Tu sais, n'importe quoi, mais la créativité, puis d'exprimer qui on est, notre personnalité, dans un objet unique. Tu sais, je pense que les êtres humains, on a tous besoin de ça. Et moi, j'ai comme juste réussi à canaliser les forces de la famille, les épreuves, mon envie d'être une maman à la maison, parce que là, c'était ma priorité. C'est quand même ce projet-là de famille. Puis, tu sais, on comprend le sens de la vie, là. En tout cas, c'est prétentieux de dire ça, je vais le reformuler, mais que c'est fragile. Tu sais, mes enfants, là, quand je les embrasse le soir, puis quand, tu sais, quand on en perd un, là, ou quand on vit la mort d'un enfant, il y a des moments dans la journée que tu te dis, hey, quelle chance que j'ai des enfants dans ma vie, je remercie, tu sais, ils sont tannants, là. c'est pénible, là, j'ai plus,
ils font beaucoup de bruit.
Ça fait 3 fois que je me relève, là, tu sais, mais, tu sais, j'ai quand même, en tout cas, moi, ça m'a permis vraiment, là, d'être une meilleure mère, cette épreuve-là, et en plus de faire converger mon mode de vie. Et aujourd'hui, si je peux réussir à aider d'autres familles, à accompagner d'autres couples, à redonner, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment ce sentiment-là de maintenant pouvoir contribuer dans le partage et dans ce sens-là, ça me faisait plaisir de participer à l'entrevue parce qu'on dirait que maintenant, c'est ça, de parler, de dire que ça a été difficile, mais que maintenant, ça va mieux, ça va bien. Je trouve que ça... En tout cas, moi, j'en suis fière, puis si ça peut
ça donne comme, de
alimenter, c'est ça, de dire les moments difficiles, puis c'est ça, le deuil périnatal, on n'en parle pas beaucoup, c'est... Donc, il y a moyen de rebondir, puis que ces petits-enfants-là, ils nous accompagnent, puis ils nous donnent un plus dans notre vie. Moi, là, j'en parle, tu sais, ça fait 15 ans, là. Donc, c'est pour ça que je peux en parler aussi, avec autant d'aisance aussi. Mais moi, je suis convaincue que cet enfant-là, elle a joué un rôle énorme, là. Puis c'est peut-être juste ça, son message, son rôle, qu'elle venait nous apporter ça, mais moi, j'ai voulu en faire quelque chose de positif. Puis c'est encore dans mes fondements aujourd'hui.
Est-ce que donc, dès le début de cette petite entreprise-là qui a découlé de cette première collaboration-là avec ton père, est-ce que dès le début, vous vous êtes spécialisé, si on peut dire, dans la fabrication d'objets d'art funéraire?
Oui, parce que là, j'ai monté un plan d'affaires. Là, je voulais pas dire j'avais faire des toupies puis des bols à salade. Tu sais, le plan d'affaires, là encore là, mon cours en administration, m'a dit là, il faut que je lui donne des chiffres. Moi, je voulais avoir une subvention. Fait que pour avoir la subvention, il fallait que j'aie des chiffres. Puis la première année, deuxième année, troisième année, là, je faisais 100 urnes par année, à temps par... C'était facile de faire un plan d'affaires avec des chiffres, avec une production qui était très claire. Ben là, ça a été vraiment complètement autre chose, la réalité, surtout que mon père est décédé. On a fait un premier prototype. Moi, vous comprenez, là, je sais pas vraiment tourner, là. Je suis pas une spécialiste du travail du bois, mais...
Au début.
C'est mon père, le coach, là, c'est lui là qui connaît tout ça. Fait que lui, dès que j'ai eu la subvention, 3 semaines après, il était décédé. Puis le seul prototype qu'on avait... Il a servi pour l'urne. Ça a été l'urne de mon père. Fait que là, moi, wow. Là, j'ai une subvention, j'ai ce projet-là, puis là, je dois me revirer de bord, puis je dois, tu sais, rendre des comptes, là. Tu sais, moi, j'avais comme vendu que je savais n'en faire, entre guillemets. Mais là, c'est ça. Je me suis retournée, je suis allée voir un des meilleurs tourneurs là, au Québec qui est reconnu, André Martel, à Saint-Césaire. Puis là, j'ai expliqué ma situation. Il est devenu mon mentor, mon ami, puis là, c'est là que j'ai commencé à travailler le bois vert. Avec André Martel, mon père était ébéniste, travaillait le bois sec. Donc là, j'ai vraiment été vers une technique là, diamétralement opposée, qui est le tronc d'arbre à 40 % d'humidité. On le creuse, on le fait sécher et on le refinit après. Donc, si on imagine qu'il n'y a pas de collage, il n'y a pas de sélection, c'est vraiment la personnalité de l'arbre avec ses traits de caractère, son écorce, le cœur. On voit le cœur, on peut voir des craques, on peut voir des que certains appellent des défauts, mais moi, je vois toute la beauté dans ces cicatrices-là. Ça donne un rendu très, très organique, très naturel, que l'œil n'a pas l'habitude de voir parce que c'est pas de l'ébénisterie classique.
Wow! C'est toute une démarche qui n'était pas attendue. J'aimerais en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qui se passe après, comment cette entreprise-là, mais aussi tes compétences comme artiste, si on peut dire, se développent au fil des années pour t'amener où tu en es aujourd'hui.
Mais c'est vraiment moi j'ai suivi des formations, des perfectionnements. Là mon côté sportif, là. Tu sais, j'étais pas dans les arts, mais c'était pas grave. Parce que d'abord, le tournage sur bois, la sculpture, c'est physique. C'est dans le corps que ça se passe. Le tournage sur bois, c'est beaucoup le mouvement, la coordination du corps, des mains. Ça se joue beaucoup dans les genoux, étonnamment. Puis le creusage, tu sais, c'est physique. Il faut, c'est fatigant. Il faut aller la creuser, la bûche. Fait que, là, mon professeur, tu sais, il m'a comparé à la Sidney Crosby du tournage sur bois. Tu sais, là, ça m'a crinqué, là. J'étais comme en feu. Puis j'ai progressé rapidement. Puis là, c'est sûr que j'ai surmonté une espèce d'étape de peur, là, parce que c'est gros, là, c'est mécanique. Puis là, c'était dur de me retrouver dans l'atelier sans mon père, qui lui s'occupait d'aiguiser les couteaux, les machines. Et que ça a été un gros défi, là, d'apprendre un métier, de l'apprendre seul, de maîtriser le risque aussi, parce que le professeur en question, il a dit, tu sais, en tournage sur bois, il n'y a pas souvent d'accidents, mais quand il y en a, c'est souvent mortel. Ça, c'est comme ça qu'il commençait sa formation, parce qu'on parle d'une grosse masse, tu sais, qui est attachée sur un moteur, puis ça tourne. Si ça décroche, puis tu l'as d'en face, c'est dangereux. Fait que c'est pas comme, tu sais, les scies, on peut se couper des doigts. Tu sais, beaucoup d'ébénistes, ils leur manquent des bouts de doigts, mais en tournage sur bois, quand il y a des accidents, ça peut être mortel. Donc, déjà en partant, j'avais cette gestion-là du risque qui était importante, de ne pas me mettre dans des situations, tu sais, de m'assurer toujours de ma sécurité par rapport à mon développement de ma pratique. Puis après, je vous dirais que c'est vraiment les gens autour de moi qui ont eux, ils ont compris, là. Ou en tout cas, tu sais, il y a des gens qui sont sensibles à l'art ou qui ont une bonne connaissance des arts, ou tu sais, qui arrivaient puis ils m'encourageaient, là. Eux autres étaient capables de mettre des mots sur ce que je faisais, puis ils voyaient mon enlignement, ils voyaient où que je m'en allais, ils voyaient mon besoin d'expression. Parce que là, tu sais, il fallait que je fasse un CV d'artiste, il fallait que je fasse une démarche, un site web, tu sais. J'allais sur tous les fronts, là. J'allais autant en entrepreneuriat, en métier d'art, puis aussi, tu sais, j'ai déposé au Conseil des arts et des lettres pour avoir des bourses comme artiste. Fait que je jouais sur tous les fronts. Mais c'est vraiment, tu sais, d'abord mon professeur de tournage qui m'a dit, là, t'es pas un entrepreneur, tu sais. Ben oui, t'es un entrepreneur, mais tu fais du métier d'art, t'es une artisane. Puis après, j'ai comme passé à une autre étape où là, il y a comme un autre vocabulaire à travers ce que je faisais, que les gens, ils sentaient mon besoin d'expression, là, tu sais, que je faisais ça, ma démarche était profonde. Puis, moi, j'ai vraiment besoin de faire ça. Donc, c'est vraiment dans le support que j'ai eu autour de moi que ça l'a fait une grosse différence.
Tu t'es redéfinie comme artiste à ce stade-là, ce qui n'était pas du tout là où tu avais commencé, hein?
Oui, puis j'avais toujours de la difficulté parce que comme mon père, tu sais, dans ma famille, les artistes, c'est des pelletots de nuages, là. Tu sais, faire des grandes réflexions, mettre des grands mots, tu sais, c'est des concepts. Tu sais, lui, il était dans le faire, là. Fait que, tu sais, parle-en pas de ta sculpture, fais-la, mais si elle sert à rien, tu sais, t'as peut-être perdu ton temps, tu sais. Fait que mon père, tu sais, sa définition de l'artistique, c'était... Tu sais, lui, il n'y avait rien dans sa vie là, qui servait à rien. Là. Après, je me suis dit, non, tu sais, l'art, ça sert vraiment à quelque chose. Puis, entre autres, à accompagner puis à donner de l'amour. Puis là, j'ai rattaché aussi à mon côté où j'ai grandi sur une ferme, où là, le prendre soin, là, le care, là, l'envie, moi, d'intervenir pour prendre soin des autres. Tu sais, il y a quelque chose là qui reconnecte avec mon enfance, les animaux. Puis, tu sais, quand tu soignes, tu sais, ça se fait avec les mains. Tu sais, il y a quelque chose là, moi, que je trouvais dans la sculpture, de faire des sculptures pour les gens. Tout ça prenait du sens. Mais après, c'est vraiment un passage à l'université, à l'UQAR, à Rimouski. Où là, j'ai fait, dans le département de psychosociaux, j'ai fait un cours qui s'appelle « Études de la pratique artistique ». C'est sur 2 ans, c'est un 15 crédits. Et là, j'ai découvert le mot « introspection ». Puis là, on riait, là, parce que moi, j'étais comme... Tu sais, là, j'étais vraiment avec des artistes. Mais là, c'est drôle, parce que c'était vraiment une cohorte. C'était un travail d'équipe, de groupe. C'est vraiment un cours merveilleux. Puis là, je suis vraiment été la découverte du monde intérieur, puis des grands termes comme ça, tu sais, qui sont vraiment propres, tu sais, la quête, le sens, puis le rituel. Et là, maintenant, là, je suis capable de nommer ça dans des phrases, là. Pour moi, c'est comme, ça a été comme une deuxième révélation, là, comme un passage d'artisan à peut-être plus artiste, quoi, que je trouve que c'est ça, le mot artiste, ça peut être différentes définitions. Mais d'aller chercher, d'être capable de mettre en mots ce que je ressens à l'intérieur ou, en tout cas, je comprends qu'une œuvre, ce n'est pas que de la matière. Et ça, j'avais besoin de mettre des mots sur tout ce qui est invisible. Fait que j'ai comme vraiment un intérêt pour le non-matériel, tu sais, appelons ça la spiritualité si les gens sont à l'aise avec ça, mais tout ce qui est invisible. Puis un artiste, il met de l'amour, il met de l'énergie, c'est des idées, tu sais, c'est d'abord des idées, là. Tout ce qu'on crée, c'est d'abord dans la tête. Fait que l'importance du monde intérieur pour ensuite le matérialiser dans la sculpture, ça, en ce moment, là, ça fait partie des choses qui m'alimentent au quotidien. Puis la pratique du yoga, la pratique de la méditation, ça devient un élément super important dans mon métier de sculpteur.
Tu as mentionné plus tôt, José, que ta relation avec ton conjoint que tu avais rencontré en Belgique ou avec qui tu avais vécu en Belgique, en tout cas, c'était terminé, le père de tes enfants. Peux-tu parler un peu de ce que ça peut représenter quand on se sépare comme ça, quand on a des enfants ensemble?
C'est vraiment un thème, je trouve, qui est en lien aussi, pour moi, en tout cas, très fort avec la quarantaine. Parce que la trentaine, c'était vraiment la maison, les enfants. Mais là, au niveau de la quarantaine, tu sais, moi, on était comme plus à la même place. J'étais plus capable de juste être dans un mode où j'endure, où la communication c'est compliqué, où la relation c'est compliqué. J'avais envie vraiment de revenir à une relation amoureuse, plus riche. Tu sais, il manquait vraiment quelque chose de fondamental que j'ai même encore. Tu sais, donc ça a conduit à une séparation parce que mon projet de vie était plus compatible avec ce que je vivais, tu sais, depuis des années. Donc la séparation a été difficile. Ça s'est pas bien passé. Vraiment comme des tensions qui se sont accumulées, des problèmes de communication qui se sont accumulés. Je pense que ça fait partie. Dans mon histoire, j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs craques au cœur. Il y a eu le bébé, il y a eu le décès de mon père. Mais une des grosses craques au cœur aussi, ça a été comme le deuil du projet de famille, le deuil d'une séparation à l'amiable. Ça a été. C'est venu me chercher vraiment loin. Puis. Même à un point où on était tellement loin dans nos chicanes, tu sais, j'ai eu peur pour les enfants. Puis, tu sais, autant j'ai grandi dans un monde, tu sais, je vous ai dit, mon enfance, tu sais, la peur, je connaissais pas ça. J'ai voyagé en sac à dos à travers le monde, la peur, tu sais, j'ai surmonté. On était en Syrie, en autostop, moi, puis mon... Tu sais, j'ai fait des choses vraiment où j'ai... Ma propre survie, j'étais à l'aise, mais... Là, quand ça l'a touché, la peur, c'est pas rationnel, là. C'est fort. Puis là, avoir peur pour ses enfants, puis peut-être parce que j'avais déjà vécu la mort d'un enfant. En tout cas, quand mon conjoint il est parti en Europe avec les enfants, j'en ai pas dormi pendant 3 jours. Puis je me suis ramassée à l'hôpital. Avec un diagnostic de psychose brève, là, parce que là, j'étais rendu loin, là, quand on dort pas pendant 3 jours, ça va pas bien, là, tu sais. Fait que là, je me ramasse en psychiatrie. Et tu sais, là, toute ma confiance, c'est la fille qui ça allait bien à l'école, que j'avais des trophées, puis, tu sais, des médailles. Et là, dans ma vie, là, tu sais, mon beau projet d'affaires, tout ça, j'avais un dossier psychiatrique, là. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, là, puis, tu sais, il a fallu une permission pour que je sorte prendre une marche, tu sais. J'étais avec comme une étiquette de folie. Mais même là, quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit, OK, j'ai comme une épreuve, j'ai quelque chose à vivre ici. Puis là, avec les gens qui étaient là, tu sais, je me suis dit, OK, on peut jouer aux cartes ici, on peut jouer. Il y avait des pichenottes, j'ai créé du lien avec les gens qui étaient là. J'étais comme une animatrice. Mais tu sais, j'ai dit, non, je vais voir du positif aussi là-dedans. Puis, là, en même temps, ça m'a permis de voir c'est qui les gens qui sont en psychiatrie, tu sais. C'est quoi la maladie mentale? Mais, tu sais, c'est sûr qu'après ça, ça m'a pris un bon, là, 6 mois un an là, à me replacer. On dirait quand on va dans un extrême d'émotion, tu sais, la dépression a suivi, puis tu sais, la dépression, c'est ça, les énergies, où est-ce qu'ils s'en vont, puis qu'est-ce qui fait que je suis rendue là, puis tout se replacer, là, il y a eu comme des mouvements de pendule pendant ces années-là, mais toujours, c'est mon travail, puis ma création qui m'a ramenée. Mon atelier, là, je me disais, même si j'y vais juste 10-15 minutes par jour, je mettais la radio, je dansais un peu, j'essayais juste d'aller retrouver le bien-être, puis j'ai appelé ça mon atelier refuge, parce que ça allait bien. Tu sais, j'avais la chance que, malgré tout, là, tu sais, moi, j'avais comme trouvé le sens de ma vie, là. Fait que ça, j'étais vraiment reconnaissante d'avoir un métier que j'aime, puis que c'était juste de placer un peu la tourmente, puis je savais que ça finirait par se placer, mais je suis contente aussi de partager ça, parce que je trouve la santé mentale, c'est un autre gros tabou. Puis maintenant, ben, je vais même dans les écoles, c'est sûr que je parle pas de santé mentale ou de psychose, mais les arts, c'est bon pour la gestion de nos émotions. Puis on l'a vu avec la pandémie, chanter, danser, dessiner, écrire, c'est quelque chose qui nous permet de nous régulariser, de revenir à un état d'équilibre. Ça nous amène de la joie, ou ça nous permet d'exprimer notre tristesse ou notre colère. Puis ça, c'est le fun d'en parler à des petits, mais c'est le fun aussi d'en parler à des ados. Parce que les ados, souvent, ils sont plus gênés de danser, puis se chanter, là, ils chantent mal, puis ta-ta-ta-ta. Mais en tout cas, je porte ce message-là quand je vais dans les écoles, de dire, arrêtez pas de faire des arts. Oui, les sports, c'est super important, la saine alimentation, c'est génial, mais moi, mon métier, je le pratique, puis je gagne ma vie avec ça, mais je le fais surtout parce que, ça m'a permis de m'équilibrer dans ma vie. Dans les grosses épreuves de vie, mais c'est en se pratiquant des fois avec des petites épreuves. Fait que, des petites chicanes d'amis, tout ça, ben, une petite musique dans ta chambre, 2-3 pas de danse, c'est pas obligé d'aller danser sur une scène, là. Si ça te fait du bien, fais-le. Puis arrête jamais de le faire. Quand t'avais 5 ans, je vois des enfants de maternelle, à 5 ans, tout le monde dessine, tout le monde chante, tout le monde danse. Mais c'est parce que les autres, ils sont dans le moment présent, puis ça les rend heureux. Ben, je le dis ça aux jeunes secondaires. Je dis, faites-en des arts, parce que quand vous aviez 5 ans, là, ça vous faisait sentir bien. Fait que si vous avez comme l'anxiété, là, le moton à l'intérieur, là, trouvez une façon de le sortir. Puis les arts, c'est quelque chose à essayer, en tout cas.
C'est une triste coïncidence que quand on est justement à l'adolescence, on devient plus conscient de nous-mêmes, un peu plus parfois embarrassé de ce dont on a l'air ou de comment qu'on parle. Puis c'est peut-être le moment où on en a le plus besoin, où on commence à avoir des épreuves émotionnelles qui bénéficieraient vraiment de pouvoir s'exprimer d'une manière artistique ou créative.
Ouais, c'est une belle... En tout cas, on pourrait surfer longtemps sur ce sujet-là, mais tu sais, je trouve que c'est une des priorités pour notre jeunesse. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de passer à mes enfants. C'est d'avoir j'appelle ça comme le coffre-fort intérieur, là. Une espèce d'assise intérieure, de mélange de confiance, mais tu sais, juste d'être capable aussi de mettre comme un bouclier sur ce qui se passe à l'extérieur, là. Je suis capable d'avoir un bouclier, puis moi, de revenir à mon espace où je suis capable de trouver du calme, du bonheur, de la joie. T'sais, les êtres humains, on aime tout ça être en joie. T'sais. Fait que moi, il a fallu que je retravaille. C'est pour sortir de la dépression, là, j'ai vraiment fait un travail pour dire, OK, c'est quoi que j'aime faire? Là? C'est quoi? Il faut que je mette mon bonheur en priorité. Puis, t'sais, les bourgoins là, qui travaillent comme des fous, puis t'sais, que c'est toujours les autres. Puis qu'aller prendre une marche, c'était égoïste. Là. T'sais, dans ma famille, là, le grand-père bourgoin, là, et quand il est mort, le curé, il broyait, là, parce que mon grand-père, il était impliqué dans toutes les affaires. Puis mon père, c'était pareil, ça disait jamais non à personne. Là. Si quelqu'un demandait un service, là, c'est sûr qu'il était là. Puis moi, ben, je suis arrivée un moment à dire, OK, il faut que mon bonheur, ça soit ma priorité. Et ça, il faut que je sorte de ma tête que c'est égoïste de faire ça. Puis moi, c'est ce que j'espère que mes enfants vont avoir aussi comme message. C'est pour contribuer aux autres, pour contribuer au monde, il faut d'abord que tu sois équilibré, puis il faut que tu sois heureux.
On n'a pas beaucoup de temps, José. Je veux te demander, pour conclure l'entrevue, comment vois-tu la deuxième moitié de la vie? Comment vois-tu ces peut-être 40 prochaines années devant toi?
J'ai lu que comme le bonheur, c'est beaucoup basé sur la santé puis la liberté. J'ai envie de m'en aller dans cette direction-là. C'est sûr que pour faire mon métier, il faut que je prenne soin de mon corps. Donc, les choix santé sont devenus aussi comme une priorité. Puis, au niveau du bonheur, ce qui est mon objet, ma vision, c'est vraiment le mot « contribution ». Tu sais, moi, pour ma vie, elle a du sens. J'ai besoin de continuer de donner de l'amour. J'ai besoin de... Tu sais, l'argent a vraiment pas d'importance. Tu sais, j'ai pas comme d'objectif matériel ou, tu sais, même mon rêve, ce serait une mini-maison puis le moins de contraintes possible. Puis... Mais ce que je voudrais, c'est continuer de faire de l'accompagnement dans le deuil, de tout le... Juste, tu sais, toujours à travers ce que je fais, mais, tu sais, les gens, quand ils peuvent avoir un objet là, pour leurs proches, qu'on l'a fait ensemble, ils composent un rituel, puis ils ont un objet, ils ont une urne, ils ont une œuvre d'art, puis que cet objet-là, elle a du sens, puis ça leur fait du bien, ça les apaise, ils repartent, il me semble qu'ils vont déjà mieux. Donc moi, c'est ça, c'est dans le futur, là, j'ai envie de développer cet accompagnement-là, puis de continuer à pouvoir, à travers la création, donner de l'amour ou partager, que ce soit à travers les ateliers aussi dans les écoles, mais moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est même prétentieux de dire ça. C'est vraiment quelque chose de profond que j'ai en dedans moi, tu sais, ou peut-être j'ai comme un trop-plein, c'est pour ça que j'ai un chien dans la vie, là, tu sais, quand on a un trop-plein d'amour, on a un chien, mais j'ai vraiment besoin de partager, c'est pour ça que je vous parle, tu sais, j'ai cette envie-là, il y a probablement des gens qui sont comme plus extrovertis, puis je me dis, tu sais, on peut en parler des émotions, j'ai l'impression que ça a manqué dans mon parcours de pouvoir mettre des mots sur des émotions, je me serais pas rendue en psychose ou en dépression si j'avais pu mieux parler du monde intérieur. Puis, tu sais, même si on a confiance en soi, quand on frappe le mur, là, ça fait mal, ça déstabilise. Fait qu'autant si on a... J'ai des amis qui ont peu d'estime, puis qui... Mais quand on frappe le mur, si on n'est pas outillé pour parler des émotions, c'est difficile. Puis je pense que ça, c'est un gros cap là, à passer. Puis notre génération, on a cette responsabilité d'outiller nos enfants pour qu'eux puissent mieux communiquer. Puis là, l'anxiété, c'est comme la problématique dans les écoles, dans notre monde. La façon, la responsabilité. Nos enfants, ils vont avoir la responsabilité de réparer le monde. T'sais, c'est pas rien, là. T'sais, moi, j'essaie de le voir positif, là, tous les problèmes qui s'en viennent. Fait que nos enfants, il faut leur présenter ça positif. Puis il va falloir trouver des solutions, il va falloir être créatif. Il va falloir gérer nos émotions pour bien communiquer. Puis si les arts peuvent nous aider, en tout cas, moi, c'est ma petite partie, là. Je suis pas psychologue, je suis pas infirmière, mais tu sais, ma petite partie, c'est à travers les arts, je parle des émotions.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 13e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, @laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.